Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, comment les maisons de retraite se préparent-elles à affronter la canicule? Les EHPAD, déjà frappés très durement par le Covid, vont faire face à de nouvelles contraintes. Pas de ventilateur, par exemple, dans les salles communes. Reportage à suivre. Près de 9 milliards d'euros, c'est l'énorme montant que Bayer a accepté de payer aux États-Unis pour mettre fin à près de 100 000 plaintes contre le Roundup. Nous serons à Los Angeles. À suivre aussi le dernier tour de piste de Gérard Collomb à Lyon, reportage à 3 jours des municipales, le procès d'un des premiers djihadistes français à avoir rejoint l'État islamique et puis la sortie controversée d'un nouveau livre sur Donald Trump. Cette fois-ci, l'attaque vient de sa propre famille.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le président du parti Les Républicains, Christian Jacob.
France Inter.
La hausse des températures, Sébastien, nouvelle source d'inquiétude dans les maisons de retraite.
Oui, après le Covid qui a fait des ravages, les établissements pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD vont devoir faire face aujourd'hui à l'une des plus chaudes journées de la semaine, un retour de la canicule qui inquiète les soignants, car le contexte est déjà lourd, comme ici à Pantin, dans cette EHPAD publique, 27 morts pendant l'épidémie, et donc maintenant une vague de chaleur difficile à combattre à cause de contraintes sanitaires très complexes. C'est un reportage signé Hélène Cheval.
La canicule, la directrice de l'EHPAD, Céline Bourreau, s'y prépare depuis longtemps.
Dès mars, on a commandé des climatiseurs individuels parce qu'on savait que ça serait difficilement compatible. En tout, on a une centaine de climatiseurs, donc c'est un surcoût aussi, hein, mais c'était nécessaire.
8 salles rafraîchies peuvent également accueillir par petits groupes les résidents.
Là, on a la grande salle avec des cloisons qui peuvent se mettre, qui sert d'habitude de salle à manger et qui sert de salle climatisée.
Pour y émettre éventuellement,
oui.
Combien de personnes dans son
par accompagnement, on va être sur des groupes de 20 personnes réparties sur l'ensemble de l'espace.
Car les recommandations du ministère de la Santé sont très strictes, constate la directrice. Pas plus d'une personne pour 4 mètres carrés. Des climatiseurs dont l'air ne doit pas être recyclé, clés mais venir de l'extérieur, et des ventilateurs, comme certaines habitudes, à proscrire des espaces communs.
D'habitude, on leur dit faites des courants d'air. Là, ça ne sera pas possible, parce que la consigne, c'est quand même, si on arrive à créer de l'air avec ventilateur, il faut que ce soit en chambre fermée, pour éviter qu'il y ait des flux d'air qui permettent de diffuser le Covid chez les voisins.
Et ce sont de nouveaux réflexes à prendre pour les soignants.
Je rentre dans une chambre, j'éteins le ventilateur, pour ne pas en prendre de risque, j'oublie pas de le rallumer, je ferme la porte en sortant. Enfin, c'est toutes des organisations comme ça.
Des contraintes supplémentaires pour un personnel déjà épuisé et des résidents aux organismes fragilisés.
Hélène Chevalier, les soignants des EHPAD publics dont les salaires vont être revalorisés, tout comme ceux des personnels hospitaliers. Le gouvernement a enfin donné un chiffre, une base de négociation. Ce sera 6 milliards d'euros pour les hausses de salaires promises. Autre annonce hier de l'exécutif, le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée. L'État indemnisera les salariés à 84% du salaire net, mais il faudra désormais un accord collectif par entreprise ou par branche. Enfin, notez aujourd'hui une réunion ministérielle autour des cas des discothèques et autres bars de nuit dont la réouverture n'est prévue pour l'instant qu'en septembre.
Il est 7h33, des milliards, Sébastien, pour mettre fin à des milliers de poursuites judiciaires.
Bayer, le propriétaire de Monsanto et de son célèbre Roundup, a fini par proposer une indemnisation aux centaines de milliers de plaignants américains qui accusent cet herbicide de leur avoir donné un cancer, près de 9 milliards d'euros au total. À Los Angeles, les précisions de Loïc Piala.
On a rarement vu un règlement à l'amiable avec autant de zéros, concède une professeure de droit dans le New York Times. Mais avec le nombre de plaintes comprises dans l'accord, la somme dont bénéficiera chaque victime se situe entre 5 et 250 000 dollars, à des années-lumière des dommages et intérêts infligés à Bayer lors de ses 3 procès perdus depuis 2018. Selon le Wall Street Journal, les actionnaires jugent d'ailleurs acceptable ce montant de 10 milliards, surtout que Bayer n'admet aucune faute et pourra continuer à vendre son herbicide Roundup. La fermeture des tribunaux à cause du coronavirus a joué en faveur du géant allemand de l'agrochimie. Difficile d'espérer un procès dans les conditions actuelles. Au moins 25 000 plaignants ont toutefois refusé de signer l'accord. Une partie de la somme servira également à financer un comité indépendant de 5 scientifiques chargés de déterminer une fois pour toutes s'il existe un lien entre le Roundup et le cancer. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
9 milliards d'euros pour mettre fin au procès américain contre le Roundup. Quelles conséquences sur les procédures judiciaires en France? Réaction de l'avocate Corinne Lepage à suivre dans le journal de 8h. Le projet de loi du gouvernement sur la recherche. 25 milliards d'euros sur 10 ans. Un texte qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Un avis sévère qui n'émane pas des chercheurs eux-mêmes, déjà très critiques, mais signé hier du Conseil économique, social et environnemental. Quand le groupe Total fait du X, dit comme ça peut peut prêter à confusion. En fait, l'IX, c'est bien sûr l'école polytechnique et le groupe pétrolier français propose d'y bâtir un centre de recherche dédié à la décarbonation des énergies. Un projet validé par le conseil d'administration de Polytechnique en 2018. Mais c'était sans compter sur l'opposition forte d'une partie des élèves et des anciens élèves. Nouveau conseil d'administration ce matin. Il sera toutefois compliqué de mettre tout le monde d'accord, Mathilde Dehimi.
Le bâtiment de 10 000 m² doit accueillir 200 salariés de total à quelques pas des amphithéâtres. Le groupe pétrolier n'a rien à faire sur le campus, estime le collectif Polytechnique n'est pas à vendre, son porte-parole Mathieu Lequen.
Il est très difficile de cerner les bénéfices que ce partenariat apporte à l'école polytechnique. C'est pas pour proposer des nouveaux laboratoires en commun, c'est pas pour créer des nouveaux bâtiments qui seraient utiles, c'est juste pour mener de la recherche avec des employés salariés de Total dans un bâtiment dédié à Total, et donc recherche qui pourrait très bien être menée de la même façon en étant installée 2 kilomètres plus loin.
De nouveaux lieux seront proposés au conseil d'administration, dit la direction, plus forcément sur le foncier de l'école. Et il n'y a pas à craindre pour l'indépendance de Polytechnique, estime son directeur général François Boucher.
C'est pas le marketing ou la communication qui va s'installer dans ce bâtiment, hein. C'est des chercheurs, des gens qui vont travailler sur les énergies bas carbone. Il y a quand même matière à avoir justement des échanges avec nos élèves, et ça fait sens d'avoir un grand acteur de l'industrie qui s'engage dans une transition énergétique.
Dans une analyse juridique, le collectif d'opposants met en avant d'éventuels problèmes d'appel d'offres et de conflits d'intérêts. Le PDG de Total étant membre du conseil d'administration, il se retire au moment des délibérations, précise Total et Polytechnique.
Mathilde Dehimi, le débat télévisé entre les 3 candidates à la mairie de Paris pourrait finalement avoir lieu ce soir. Agnès Buzyn, Rachida Dati, Anne Hidalgo devaient se retrouver hier soir sur BFM, mais Anne Hidalgo a annulé sa participation in extremis après avoir rencontré les salariés en grève contre un plan d'économie. Le mouvement de grève a été suspendu. Des négociations doivent s'ouvrir aujourd'hui. Après Paris, autre ville très convoitée, la ville de Lyon, où une page se tourne. Gérard Collomb y a régné pendant 18 ans. Il s'apprête à céder la main lors des prochaines municipales dimanche, après avoir surtout noué un accord très controversé avec la droite. Alors qui pour le remplacer? Reportage sur place de Christophe Vincent.
Dans son grand bureau, Gérard Collomb montre un buste d'Édouard Herriot, 47 ans, maire de Lyon. « Je le laisse à mon successeur », lâche-t-il Badin. Un successeur, ici, beaucoup imaginent un dernier coup de l'animal politique pour se maintenir. Alors, il insiste.
« Je ne serai plus maire de Lyon ni président de la métropole. Je continuerai à siéger, mais il y aura un président qui, je l'espère, sera François-Noël Buffet et un maire de Lyon qui sera Yann Cuchera. Je serai à leur côté de toutes mes forces. »
L'alliance de l'ancien ministre macroniste avec une droite très large stimule ses adversaires, comme Yannick Jadot, venu soutenir le candidat vert Bruno Bernard.
Johnny Hallyday disait « Le plus important, c'est l'entrée sur scène et la sortie de scène. » Et Gérard Collomb, il rate sa sortie de scène.
Le président sortant, David Kimmelfeld, n'a plus envie d'évoquer son ex-ami marcheur devenu rival.
Les gens, ils veulent du concret. Ils ne veulent pas simplement entendre parler de fusion de partis politiques. D'un côté, avec les Verts et la France Insoumise. De l'autre, avec un Gérard Collomb qui va chercher les Républicains alors que pendant des années, ils se sont combattus de manière extrêmement forte.
À 73 ans, Gérard Collomb veut lire des romans, s'occuper de ses jeunes enfants et refaire de la voile. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
La justice va de nouveau se pencher sur les soupçons de conflit d'intérêts entourant Alexis Kohler, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, sous Emmanuel Macron. Après un classement sans suite à l'été 2019, des juges d'instruction vont enquêter sur ses liens avec l'armateur MSC suite à la plainte déposée par l'association anticorruption Anticor. Justice encore avec l'ombre du 13 novembre 2015 aux Assises de Paris. C'est aujourd'hui que commence le procès du djihadiste Tyler Villus, un Français qui a gravi les échelons au sein du groupe État islamique jusqu'à en devenir l'un des émirs. Il est jugé pour des crimes commis en Syrie entre 2013 et 2015. Il est aussi soupçonné d'avoir été en contact avec Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats du Bataclan. Il a été arrêté in extremis alors qu'il tentait de revenir en France, vraisemblablement Charlotte Pierre, pour commettre des attentats.
La scène se déroule en juillet 2015 à l'aéroport d'Istanbul. Un homme s'apprête à embarquer à destination de Prague. Son passeport suédois est authentique, mais la photo peu ressemblante. « Parlez-vous suédois ?» interrogent les policiers. Non. Le passager est interpellé. Ce Français de son vrai nom est Tyler Villus. Il vient de passer plus de 2 ans en Syrie et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Car le jeune homme de 25 ans, originaire de Troyes, a fait partie des premiers à rejoindre les rangs de l'État islamique et à en gravir très vite les échelons. Policier, chef d'un groupe de combattants, membre de la brigade des immigrés, il a combattu, recruté, encadré des exécutions publiques pour l'organisation terroriste. Jusqu'à son départ, ce 2 juillet 2015, selon lui, pour fuir, les enquêteurs penchent plutôt pour un projet d'attentat, sans doute même celui du 13 novembre. Juste avant d'être transféré vers la France, Tyler Villus avait réussi à envoyer un dernier message vers la Syrie. « Ils vont pas m'enfermer définitivement, ça change rien. Quand je sors, j'agis. » Pour ce projet d'attentat, mais aussi, et c'est une première, pour les exactions commises en Syrie, Tyler Villus encourt la réclusion à perpétuité.
Charlotte Piret.
Aux États-Unis, Sébastien, un nouveau livre à charge contre Donald Trump.
Ce nouvel opus, les promet l'éditeur, doit jeter, je cite, une lumière crue sur la sombre histoire de la famille du président américain. Il est signé de sa propre nièce, Marie Trump, psychologue méconnue du grand public. Il devrait sortir le 28 juillet, sauf qu'un autre de ses oncles, Robert Trump, a déposé, lui, un recours en justice pour en bloquer la publication. À New York, Loïc Loury.
Pour nous, les actions de Marie sont vraiment une honte. Voilà ce que dit Robert Trump, le frère du président, dans un communiqué. Son objectif, bloquer la publication du livre, une tentative selon lui de dramatiser, de dénaturer nos relations familiales pour en tirer profit. Une mascarade, conclut-il, et une injustice. Dans cet ouvrage, des révélations autour des relations de Donald Trump avec son père, comment il se serait moqué de son Alzheimer. Marie Trump assure aussi être la source d'une enquête récente du New York Times sur les finances du président. Mais voilà, la nièce du patron de la Maison Blanche aurait violé un accord de confidentialité en lien avec l'héritage de son père, et c'est en vertu de cela que son oncle tente de bloquer la publication du livre. A priori, rien de mieux pour en assurer la publicité. L'éditeur en question s'est fait une spécialité de ses livres chocs contre le président, mais c'est la première fois qu'un membre de la famille Trump prend la plume. New York, Loïc Loury, France Inter.
On reste aux États-Unis avec le marathon de New York annulé à cause du Covid. En attendant, vous pouvez toujours aller vous entraîner à la Tour Eiffel, Nicolas. Elle rouvre aujourd'hui jusqu'au deuxième étage, montée uniquement par les escaliers.
Je vous suivrai. Merci Sébastien Legénie.